La première.
Podcast.
Retour dans Un jour dans l'histoire, deuxième partie. Le vendredi, vous le savez, c'est l'occasion de nous pencher sur l'émission de la radio suisse Monumentale. Aujourd'hui, on vous emmène au Panthéon de Rome qui se trouve sur la Piazza della Rotonda. C'est l'un des édifices majeurs de l'Antiquité romaine et figure parmi les constructions les plus remarquables de l'histoire de l'architecture. Son énorme coupole de 43 mètres de hauteur et autant de diamètre a été pendant longtemps la plus grande du monde. Pour en parler, Joanne Ducey reçoit Michel Fuchs, qui est professeur à l'Institut d'archéologie et des sciences à l'Université de Lausanne.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur la première.
Le bâtiment romain le plus visionnaire demeure emblématique de l'architecture mondiale, c'est le Panthéon, un temple dédié à l'ensemble des dieux, construit par l'empereur Hadrien aux environs de 125 après Jésus-Christ.
Extrait du documentaire Les Merveilles de Rome.
Panthéon, c'est un mot qui vient du grec.
Pantheon, en fait, le mot renvoie au culte qu'on pouvait rendre à tous les dieux. C'est un terme qu'on lui a donné, mais qui reste relativement difficile à comprendre par rapport à l'édifice lui-même, dans le sens où l'intérieur de cet édifice, sa particularité qui est d'être circulaire à l'intérieur, ne comporte pas, comme on pourrait s'y attendre si on devait rendre hommage aux dieux et à tous les dieux, 12 places réservées aux dieux. Donc, les chercheurs actuellement pensent qu'il s'agit plutôt d'un nom qu'on lui a attribué par la suite. Un nom d'ailleurs qui est attesté par une inscription très précisément en 59 après Jésus-Christ, où les prêtres romains par excellence, que sont les frères Arval, se sont réunis dans ce lieu pour décider de leurs activités. Et l'inscription qui relate la chose parle du Panthéon.
Pour l'empereur Hadrien, le Panthéon était une véritable obsession. Passionné d'architecture, il était capable de tracer lui-même des plans et des ébauches. Il avait fait construire sa propre villa sur le modèle d'un temple égyptien.
Au départ, c'est vraisemblablement un autre élément dont il s'agit. C'est un bâtiment qui a été conçu par Agrippa, le gendre d'Auguste. Et Auguste, dont le nom Auguste lui a été attribué en 27 avant Jésus-Christ, avait pour lieutenant, si l'on peut dire, dans ses campagnes militaires, celui qui est devenu son gendre, Agrippa. Marcus Vipsanius Agrippa, qui possédait certaines parcelles dans cet endroit particulier où va s'ériger le Panthéon, connu lui grâce à l'empereur Hadrien. Dans cette parcelle, Agrippa va mettre en place une basilique consacrée à Neptune, le dieu marin par excellence, va installer une zone avec une cour particulière à côté d'un endroit extrêmement connu à Rome, qui était l'endroit où l'on votait, qui était les Saepta Iulia, pour utiliser le terme latin, et constituer un temple dont les recherches récentes montrent qu'il était déjà pratiquement dans la structure qu'on va lui connaître par la suite, c'est-à-dire un temple dont l'entrée est dirigée vers le nord, vers la place actuelle, la Piazza della Rotonda, qui caractérise le devant du Panthéon, avec ce qu'on appelle en termes grecs un pronaos, un grand vestibule, si l'on veut, orné de différentes colonnes, et une zone circulaire à l'arrière, consacrée, alors pas nécessairement à tous les dieux, mais aux dieux de la famille julio-claudienne, c'est-à-dire, ou julienne au départ, c'est-à-dire les dieux qui sont à l'origine de l'Empire d'Auguste. Mars en particulier, et surtout Vénus. Vénus, la mère d'Énée, le héros fondateur de Rome, dont César se disait le descendant, et donc Auguste par suite.
La façade du Panthéon a été conçue afin d'exprimer la maîtrise du monde par les Romains. Le portique grec était soutenu par 16 superbes colonnes. Taillées dans le beau granit d'Égypte, elles ont été extraites de carrières situées à des milliers de kilomètres de là, à Assouan, avant d'être transporté jusqu'à Rome. Les traverses situées au-dessus étaient jadis habillées de bronze. Ici, deux gigantesques portes de bronze, hautes de plus de 6 mètres, ouvrent sur un vaste espace circulaire, grand comme la moitié d'un terrain de football.
Le Panthéon, est-ce que c'est le plus grand monument romain antique ?
Tout dépend de la vision qu'on veut donner à ce plus grand romain antique. Un grand, des grands monuments, ce sont les amphithéâtres, ce sont les théâtres, qui vont être plus grands que un monument comme le Panthéon. Ce qui caractérise le Panthéon, c'est que c'est le plus grand monument romain conservé, extérieur et intérieur, quasi dans sa totalité. Je crois que c'est ça qui fait sa particularité, qui fait que ce monument, pendant toute son existence et jusqu'à aujourd'hui, reste un modèle précisément. Mais il y a plus, c'est aussi l'ordonnance de son architecture qui fait son côté grandiose. La manière dont il a été érigé, la manière dont son intérieur a été élaboré, fait toute sa spécialité.
Sait-on pourquoi il a été construit ?
Alors, il a été construit au départ. Alors, revenons à Agrippa, à ce lieutenant d'Auguste. Lorsqu'il le construit, il va sans doute le construire en relation justement avec cette basilique de Neptune. Il faut dire qu'on est dans ce qu'on appelle le champ de Mars à Rome. Le champ de Mars étant le lieu où les soldats revenant d'expédition...
C'est un terrain militaire.
C'est un terrain militaire, exactement. Terrain militaire où les soldats, les légionnaires vont déposer leurs armes avant d'entrer véritablement dans la ville de Rome. Et ce lieu-là va être le lieu où se préparent les processions triomphales des généraux et où l'on va aussi honorer les divinités qui sont à l'origine des victoires. Agrippa est en fait le grand stratège d'Auguste, le grand militaire d'Auguste. Il offre certainement cette basilique de Neptune en relation avec ses victoires en Méditerranée et victoires navales. À cela s'ajoute sans doute un temple qui, lui, est en relation avec ses victoires terrestres. Les victoires terrestres, c'est Mars, qui est le dieu de la guerre par excellence, qui en est certainement le premier à être honoré du fait de ses victoires. Alors, l'idée sans doute de la naissance de ce panthéon, c'est aussi de jouer sur le phénomène circulaire. Sa grande caractéristique, c'est d'avoir cette entrée comme un temple classique. Pour quelqu'un qui arrivait sur la place de l'époque, il arrivait face à un temple tout à fait normal. Enfin, normal, entendons-nous. C'était un temple qui était un peu plus large que le temple construit par la suite par l'empereur Adrien, qui avait ses 10 colonnes en façade, un fronton. On entrait à travers ces colonnes et la grande surprise était d'arriver dans ce lieu circulaire qui, sans doute, déjà pour Agrippa, encore plus fortement pour Adrien, rappelle l'orbis terrarum, autrement dit le cercle de la terre dont Auguste, qui venait d'être empereur, le premier panthéon a été construit autour de 27-25 avant Jésus-Christ. Auguste empereur est devenu le maître de l'orbe terrestre et de l'orbe céleste du même coup. Il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup par rapport au Panthéon, qui est relatée par ce grand encyclopédiste qui est Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle. Il nous raconte que Marc-Antoine, amant de Cléopâtre, aimait beaucoup manger à un moment donné, des spécialités égyptiennes, hellénistiques évidemment, et Cléopâtre à un moment donné lui soumet un pari. Elle lui dit « Je vais pouvoir t'offrir un repas de X millions de sesterces en une soirée et je vais manger ce repas. » Le repas s'avance. À la fin du repas, Cléopâtre fait amener une petite fiole de vinaigre. On sait que le vinaigre dissout des perles. Elle avait à ses oreilles deux perles acquises en Orient, des princes orientaux. Elle prend une de ces perles, elle la fait fondre avec le vinaigre et mange la perle en question. C'était une perle absolument unique, un peu au même sens que les diamants actuels, ces gros diamants d'une valeur inestimable. C'était le même cas pour ces perles-là. L'arbitre qui était là arrête le concours, restait une perle. Eh bien, la perle en question a été conservée. Agrippa l'a fait diviser en deux et en a orné la Vénus qui figurait dans le Panthéon qu'il venait de faire construire.
Le Panthéon consacre l'alliance des styles classiques et modernes. il n'y a aucun précédent architectural. Aucune colonne pour soutenir l'espace intérieur, ce qui est une conception unique pour un temple. Et sa coupole est un chef-d'œuvre de maîtrise technique.
Est-ce qu'on connaît les détails de la construction de cette coupole? Parce qu'à l'époque, ben voilà, il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a pas de grue, il n'y a pas les matériaux d'aujourd'hui. Il y a certainement beaucoup de main-d'œuvre.
Oui, beaucoup de main-d'œuvre. Alors, on n'a pas les détails des architectes avec lesquels Adrien a travaillé. Il est sans doute à l'origine du plan lui-même, surtout qu'il l'a fait relativement rapidement, puisqu'il a initié sans doute le travail en 118 après Jésus-Christ, alors qu'il vient d'être nommé empereur en 117. Et la construction va durer jusqu'en 125, vraisemblablement. Donc c'est 7 ans de travail au bas mot pour la réalisation de cet ouvrage. Est-ce qu'il a profité, il ne semble pas, des éléments de fondation ? Sans doute pas. Ce que l'on sait, par contre, avec des fouilles qui ont été faites récemment dans les années 90, c'est que c'est surtout grâce à un jeu très savant de matériaux, de différenciation des matériaux, que cette élaboration de la construction a pu être faite. En commençant par des fondations amples, de près de 4,50 m, et qui permettent une première assise forte avec les pierres locales, ces pierres dures que sont le travertin, qui va être largement utilisé à Rome. Et au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment, les pierres utilisées sont des pierres plus légères. Arrivé au niveau de la coupole, on va utiliser du tuf. Arrivé à l'extrême fin de la coupole, qui va être terminée par une ouverture plein ciel, on va utiliser de la pierre volcanique beaucoup plus légère. Donc c'est très certainement ce jeu de connaissances qui est alors là aussi propre, pas seulement Adrien, mais dont Adrien a véritablement fait une preuve et une utilisation très sensible et très nuancée, connaissance du matériau, qui permet d'arriver à cette élévation extraordinaire.
Les bâtisseurs du Panthéon imaginent plusieurs solutions radicales pour faire en sorte que le dôme et la réputation de l'empereur ne s'effondrent pas. Ils construisent d'abord un mur de 6 mètres d'épaisseur servant de support à la coupole.
C'est une prouesse technique.
C'est une prouesse technique et une prouesse du nombre aussi. Il y a un jeu sur les caissons qui vont former cette coupole. Vous imaginez donc des rangées, 5 rangées qui sont mises en place avec 28 caissons par rangée. Des jeux sur des contreforts sur les côtés, au nombre de 8 éléments forts qui vont permettre de soutenir cette immense coupole. Et un jeu aussi technique, il fallait penser quasiment, je dirais presque en sens inverse de la logique, c'est-à-dire commencer par des contreforts avec des éléments vides dans les parties basses, mais suffisamment hauts pour soutenir la base du monument, et épaissir la zone qui va supporter la coupole elle-même. Tout l'enjeu était de pouvoir proposer quelque chose en dur, véritablement, pour l'aménagement de ce bâtiment.
Puis, quand la coupole a presque atteint sa hauteur maximale, ils utilisent un béton au granulat allégé et le coulent en couches de plus en plus minces.
Quand on voit le résultat de cette coupole au Panthéon de Rome, on se dit qu'éventuellement, peut-être, il y a eu différents essais et qu'ils n'y sont peut-être pas parvenus au premier coup. Parce que ça paraît incroyable, presque magique, cette construction.
Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser à cela. Certains éléments y ont fait penser, effectivement, dans les parties basses. Mais je pense qu'il y avait déjà un concept extrêmement élaboré de la part d'un Adrien, et sans doute des réaménagements, alors effectivement, au fur et à mesure de l'élévation de l'ensemble. Et alors, nous manque bien évidemment le premier bâtiment, les éléments du premier bâtiment qui nous permettraient d'assurer la filiation qu'on pourrait voir dans ce bâtiment-là. Il y a une chose qu'il faut dire quand même, c'est que lorsque Adrien construit un tel bâtiment, il y a toute une tradition qui s'est mise en place, ils ne sont pas du tout liés à des bâtiments du type temple ou grandes salles de réception, mais qui sont des bâtiments, les bâtiments des thermes. Les bâtiments des thermes ont, pour leur élaboration, préparé certaines zones de manière cylindrique, justement, avec coupole supérieure. Un grand architecte, du moins écrivain architecte, qui est Vitruve, qui a écrit sous l'empereur Auguste, recommande pour la zone qu'on appelle le sudatorium, c'est-à-dire la zone où l'on se fait véritablement suer, sudatorium, des bâtiments cylindriques avec coupole. dans des proportions qui jouent sur les proportions du principe d'Archimède. Donc la prouesse technique est là d'avoir fait un bâtiment énorme, avec des proportions qui dépassent ce que l'on avait pu imaginer jusqu'alors.
Un dernier élément destiné à alléger la calotte deviendra la caractéristique la plus connue du Panthéon. L'oculus, une ouverture sommitale de 9 mètres de diamètre. Il élimine la poussée du béton au point le plus fragile du dôme. Et il illumine l'intérieur comme le soleil éclaire la terre.
Extrait du documentaire « Les bâtisseurs d'empire ».
La coupole, à l'origine, était recouverte de bronze.
Oui, recouverte de bronze. Il y a tout un jeu, alors qu'il faut peut-être, alors, du point de vue symbolique, mettre en relation avec le jeu de cette orbe céleste, orbis terrarum, orbe de céleste qu'il faut mettre en place, mais aussi par c'est un type de couverture que l'on accordait à des temples. Donc on retrouve là cet effet de grande plaque de bronze qu'on va réserver à des lieux en l'honneur d'une divinité et des éléments de bronze qu'on va retrouver d'ailleurs, qui sont encore en place, juste autour de ce qu'on appelle l'oculus, c'est-à-dire ce grand œil qui caractérise le sommet de la coupole, qui était donc bordé de plaquages de bronze pour permettre le jeu de la lumière aussi, le jeu de la brillance. Et il faut imaginer en plus que chacun de ces caissons dont je vous parlais tout à l'heure vont être ornés par des rosettes en bronze. Donc, à nouveau, jeu de lumière sur les bronzes eux-mêmes. Alors, il en reste très peu, du fait aussi que c'est un bâtiment qui a une histoire, dont l'histoire se prolonge, et un des aléas de cette histoire, c'est au XVIIe siècle qu'il arrive, avec le pape Urbain VIII, qui décide de prendre une bonne partie de ces éléments en plomb, en particulier dans le pronaos, les autres avaient déjà été en partie enlevés, pour en faire des canons pour la défense du Castel Sant'Angelo. Autrement dit, on reste chez Adrien, le château des papes organisé dans le mausolée construit par Adrien.
À votre avis, Michel Fuchs, pourquoi ce monument, le Panthéon de Rome, fascine autant? Il y a quelque chose quand même quand on l'a en face de soi, quand on se trouve à Rome.
Je pense que ça tient autant la beauté de l'architecture réalisée, à ce jeu des caissons, à ce jeu, je pense, de passer de l'extérieur à l'intérieur pour, une fois à l'intérieur, être appelé vers l'extérieur. Je pense qu'il y a tout un jeu là qui est tout à fait étonnant, où finalement, on est presque à l'expression la plus forte de l'art du triomphe, de l'art de l'hommage à la divinité et de l'intégration des théories architecturales et mathématiques pour une réalisation d'exception.
Donc si nos auditeurs passent à Rome, c'est vraiment un monument à aller voir.
Ah, surtout à ne pas éviter. Et peut-être à penser une chose, quand vous regarderez la coupole, le centre, cette vision sur l'extérieur, pensez à ce poème qu'on a conservé d'Adrien. Animula vagula blandula, hospes comes qui corporis, qui nunc abibis in loca, pavidula rigida nudula, nec ut soles d'abisiocos. Petite âme errante, toi qui es la compagne et l'hôte de mon corps, qui va partir dans des lieux pâles, rigides, errantes, qui va quitter le lieu où je procédais à mes jeux. Et c'est à vous de mettre du texte dans les points de suspension.
Michel Fuchs, professeur à l'Institut d'archéologie et des sciences à l'Université de Lausanne, était donc l'invité de Joanne Ducey de l'émission Monumentale de la radio suisse qui nous emmenait aujourd'hui au Panthéon de Rome.